RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est un logo qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, un sablier à l'intérieur d'un cercle qui symbolise la Terre peint en noir. C'est l'emblème du mouvement Extinction Rebellion, né en Angleterre en novembre dernier et qui réunit déjà plus de 40 000 personnes dans 119 pays. Nous sommes dans une période de dévastation écologique provoquée par nos propres actions. Nous devons agir maintenant pour éviter l'extinction, rejoint la rébellion. Voilà ce qui est écrit en haut de la page Facebook du mouvement international qui est suivi par plus de 230 000 personnes. Alors comment ce mouvement est-il né? Quelles sont ses méthodes? Et a-t-il des chances de réussir là où de nombreux mouvements écologistes ont échoué? Comme Bastin nous emmènera dans les coulisses du mouvement en Angleterre, où il a pu rencontrer l'un des fondateurs, mais aussi en France et en Inde. Puis nous décortiquerons la portée de ce mouvement avec le sociologue britannique Graham Hayes.
C'est pas du vent sur RFI.
Avril 2019, pendant une semaine, la capitale britannique se retrouve envahie et bloquée par des milliers de militants écologistes réclamant à leur gouvernement d'agir enfin face au désastre environnemental. Extinction Rebellion, créée 5 mois plus tôt, s'expose au monde entier. Quelques manifestations plus tard, le Parlement britannique déclare l'état d'urgence écologique. Le sénateur américain Bernie Sanders fait un tweet et les adhésions grimpent en flèche. L'objectif est radical, faire tomber les gouvernements et le système responsable de la crise écologique. Les moyens sont des actions spectaculaires de blocage avec un impératif de non-violence. À Londres, Bristol, Paris ou en Inde, comme Bastin est allé à la rencontre des fondateurs et des militants d'Extinction Rebellion pour comprendre comment ils s'organisent et comment, alors que leur message n'est pas si éloigné de celui d'autres mouvements écologistes, ils entendent réussir leur révolution.
Nous approchons du Muséum d'histoire naturelle de Londres à South Kensington, avec ses avenues bordées de demeures victoriennes typiques des quartiers huppés de la capitale. C'est là qu'une société pétrolière a choisi de célébrer ses exploits annuels. Un groupe d'énergie fossile au milieu d'un musée rempli de squelettes d'espèces disparues, il n'en fallait pas moins pour que Extinction Rebellion décide de jouer les troubles fêtes.
On est venu pour protester contre un dîner qui va avoir lieu dans ce beau bâtiment ce soir, dans l'honneur de BP, parce qu'on trouve que ce n'est pas normal que la Natural History Unit invite et accueille une compagnie qui exploite, voici ici, le peuple de Sénégal, énormément pour les ressources naturelles, qui va détruire ce pays, qui va détruire, si on ne fait pas quelque chose, l'humanité, en fin de compte.
Qu'est-ce qui représente l'oiseau géant?
C'est un dodo qui est extinct, en fait, qui n'existe plus. Donc il est là devant la Natural History Unit pour montrer qu'est-ce qui est en train de se passer à énormément d'espèces à l'heure actuelle à cause de nos habitudes et notre consommation sans fin.
We're outside the Natural History Museum right now. We're doing something called swarming.
En ce moment, nous sommes à l'extérieur du Muséum d'histoire naturelle. Nous faisons un swarming, c'est-à-dire que nous bloquons le trafic pendant 7 minutes de façon à ce que les invités à ce dîner de l'industrie pétrolière soient retardés. Et à l'intérieur du musée, de jeunes membres d'Extinction Rebellion se sont enchaînés sous le squelette d'une baleine bleue. Il va falloir attendre que la police vienne et coupe leur chaîne.
Ok, nous on est là. Nous sommes les Sénégalais, mais également il y a d'autres personnes du mouvement Extinction Rebel pour protester contre le scandale du pétrole. Le président Macky Sall qui a eu à signer des décrets et des contrats en faveur de BP. Donc également, il y a Extinction Rebel qui fustige le travail et bien également les dégâts que BP est en train de faire à l'environnement. Donc c'est ça qui motive également aujourd'hui notre présence ici. Donc c'est Convergence d'élite. Ok, nouvelle révolution, Convergence d'élite. Merci.
là, les manifestants bloquent maintenant complètement la route. Les voitures ne peuvent plus passer. Ça klaxonne.
Bon, là, ce qu'on est en train de faire, pour ne pas bloquer la circulation, on alterne. C'est-à-dire qu'on bloque une allée et après on prend l'autre sens pour laisser les voitures partir. Donc en principe, il ne s'agit pas de bloquer vraiment complètement la circulation.
Comme ça, on se fait voir, mais on n'importune pas trop non plus.
Tout à fait. D'une façon également de ne pas empêcher les gens de partir, de ne pas également semer l'anarchie. Donc, en même temps, essayer de faire passer notre message.
Donc là, on a changé d'entrée. Il y a du beau monde en costume trois pièces de chez British Petroleum qui est en train d'entrer dans le muséum. Les manifestants, eux, scandent British Petroleum go home, BP go home. Et les regards en face sont un peu gênés et un petit peu amusés à la fois. Profitez de votre repas, crie la foule.
Whatever your story, whatever your age, you can tell it on Extinction Rebellion stage. We honor your loving, we're feeling your rage. You can tell it on Extinction Rebellion stage.
Je m'appelle Roger Allam, je suis cofondateur d'Extinction Rebellion. Auparavant, j'étais agriculteur bio pendant 10 ans, et en ce moment, je suis chercheur au King's College à Londres.
Vous êtes un des fondateurs, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que tout a commencé ?
À l'origine, Extinction Rebellion est une organisation appelée Rising Up. Rising Up est né d'une profonde désillusion face à l'échec des mouvements engagés contre le changement climatique ces 30 dernières années. Un groupe de chercheurs et d'activistes s'est donc réuni, a passé 2 ans à analyser ce qui ne marchait pas et comment nous pourrions répondre efficacement à la menace existentielle à laquelle nous faisons face.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là au Royaume-Uni pour Extinction Rebellion ?
Oui, la première date importante, c'est en avril de l'année dernière, lorsque nous nous sommes lancés. Nous avons fait beaucoup de conférences à travers tout le pays, et le mouvement a commencé à devenir viral sur les réseaux sociaux. Je me souviens que le candidat présidentiel américain, Bernie Sanders, l'a partagé sur sa page Facebook, avec 7,5 millions d'abonnés. Nous avons alors commencé à grandir dans le monde entier, et nous nous sommes établis dans une cinquantaine de pays. Ensuite, en novembre, nous avons bloqué 5 ponts de Londres. Cela a attiré l'attention sur nous, beaucoup d'attention médiatique, parce que personne n'avait fait cela auparavant. Et puis nous avons passé plusieurs mois à préparer un mouvement de rébellion encore plus important, le 15 avril 2019. Cela a été le plus grand mouvement de désobéissance civile de l'histoire britannique, avec plus de 1000 arrestations en une semaine. Depuis, nous sommes submergés par les ralliements et les dons, et nous sommes prêts à battre le système à l'automne.
Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'Extinction Rebellion va réussir là où d'autres mouvements, comme vous dites, ont en quelque sorte échoué depuis 30 ans sur le changement climatique ?
La première chose à dire, c'est que nous sommes tout simplement arrivés au bon moment. Il y a eu une hausse exponentielle de la panique concernant la destruction de l'environnement et l'effondrement de nos sociétés face au chaos climatique que nous expérimentons désormais tous les ans. Cela nous amène à la raison principale du succès d'Extinction Rebellion. Notre organisation fournit une méthodologie pour faire vraiment bouger les choses. Je suis chercheur en sciences sociales et mes recherches porte sur les changements politiques radicaux. Et ces changements proviennent principalement de ce qu'on appelle la désobéissance politique citoyenne de masse. Ça veut dire des milliers de personnes dans les rues, bravant la loi pacifiquement. Par exemple, en bloquant des rues ou taguant des immeubles. Cela crée une crise politique qui crée à son tour du changement social. Cela ne garantit en rien que nous réussissions. Mais c'est beaucoup plus efficace que des campagnes conventionnelles comme organiser des marches, envoyer des emails ou à l'extrême opposé, l'emploi de la violence politique. Nous avons comme règle explicite que nos membres soient respectueux, non seulement entre eux dans le mouvement, mais aussi envers leurs opposants et envers la police. Ça n'est pas seulement pour être gentil, c'est parce qu'il a été démontré par les sciences sociales qu'en traitant les gens avec respect, on est plus à même d'atteindre nos objectifs.
Forbes nous avait prévenu. It's a mess. Autrement dit, c'est le bordel. Et c'est vrai que les locaux où Extinction Rebellion vient d'emménager, sur Cambridge Heights, au nord-est de Londres, tiennent encore du joyeux bazar.
Nous avons migré dans ce bureau vendredi dernier. Donc la plupart d'entre nous ne sont arrivés que depuis lundi. Commençons par le département média, qui est en fait constitué de 4 tables réunies entre elles. Là, il y a des intrus sur nos bureaux qui font autre chose. Peut-être du travail légal, je ne sais pas. C'est comme ça que ça se passe en ce moment. On vient au bureau, on s'assied quelque part et on espère qu'on puisse garder la place pour le reste de notre équipe. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Ici, il y a de grandes bannières, des bannières Extinction Rébellion, beaucoup de bâtons en bois, de posters. Lorsqu'on occupe une rue, il nous faut une bannière longue, derrière laquelle nous pouvons tous nous tenir pour bloquer la rue. Ainsi, lorsque les automobilistes arrivent, ils ne peuvent pas passer. Ici, d'autres équipements. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ils servent.
Mais comment est-ce que vous financez le loyer de cet espace ?
Il y a des gens qui nous soutiennent beaucoup dans l'immobilier et qui sont prêts à nous laisser un endroit pour une courte période et pour pas cher. Nous avons aussi eu plusieurs soutiens financiers importants. Le seul problème, c'est que c'est le 4e bureau que j'occupe depuis novembre. Il nous faut donc bouger tout le temps. Mais ainsi, nous avons plus d'argent à investir dans les actions qui sont vraiment nécessaires, plutôt que dans l'administratif.
Extinction Rebellion est née pas très loin d'ici, dans une petite ville qui s'appelle Stroud, mais très vite, et maintenant c'est 1000 fois plus grand.
Nous sommes à Bristol, dans le quartier de Stockscroft, où fourmillent les bars et les espaces alternatifs, et où les murs de briques sont recouverts de street art. Connue comme la ville du célèbre graffeur Banksy, Bristol est aussi la capitale écolo du Royaume-Uni. C'est donc à côté de Londres, une des villes où Extinction Rebellion est implantée depuis le début. Et c'est à Stockscroft que Felicity Radford, une militante écologiste de longue date, nous a donné rendez-vous.
Quand je suis rentrée de la France en 2009, je me suis inscrite de suite à Greenpeace. J'ai fait énormément d'actions avec eux. J'ai occupé la banque de Barclays en plein centre de Londres. Je me suis déguisée en ours polaire, en singe, en n'importe combien d'animaux. Mais à un moment donné, je me rendais compte qu'on n'arrivait pas à faire beaucoup de différence.
Et c'est là qu'Extinction Rebellion est arrivé.
Voilà, tu as tout compris. Pour moi, c'était vraiment un énorme soulagement parce que je commençais à me désespérer un peu. Et je ne pouvais plus faire aucune pétition, je ne pouvais plus. Et puis, en fin du mois d'octobre de l'année dernière, et là, ils ont déclaré la révolution, la rébellion contre notre gouvernement. Ils sont trop occupés par ce maudit Brexit et ils ont beaucoup négligé l'environnement et le réchauffement de la planète. Alors ça, c'est un dessin de Banksy. Alors il y a un petit nounours et il y a trois gendarmes qui font face à lui. Et il y en a partout dans Bristol parce que c'est ici qu'il a commencé sa carrière.
Donc c'est une ville qui a une longue histoire de contestation.
Oui, ça c'est sûr et certain.
Parlez-nous un peu de ce quartier Stockscroft où on se trouve.
Alors, c'est vraiment spécial dans Bristol, c'est très célèbre. On appelle ça « The People's Republic of Stockscroft », la République du peuple de Stockscroft. C'est très alternatif, très original. Ici, c'est vraiment des petits magasins indépendants. C'est le mot, c'est le vrai mot qui caractérise Stockscroft.
Et là, on voit pas mal sur les murs le logo de Extinction Rebellion. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui représente ce X ?
Alors, c'est très très bien parce que c'est un cercle. Et là-dedans, il y a un X, mais qui aussi représente un timer.
Un sablier.
C'est pour montrer l'urgence se presse. Tu verras partout.
Ça, c'était les affiches pour la journée du 15 avril à Londres.
Exact, c'est vrai. J'y étais et c'était formidable. On avait vraiment bloqué la capitale d'Angleterre. Et Bristol était chargé d'occuper Oxford Circus. On a pu apporter un grand bateau rose et on est monté dessus et on faisait des discours. Et on a gardé cet endroit du lundi jusqu'au vendredi soir.
Et Felicity, je crois que vous nous avez amené une photo justement de cette journée du 15.
Oui. J'en suis assez fière.
On peut la voir ?
Oui, bien sûr. Voilà. C'est moi qui... Je me fais emporter par quatre gendarmes. Deux bras et les deux jambes. Et je suis à l'envers. Alors on m'amène dans cette fourgonnette et j'étais en garde à vue pendant 12 heures. Mais pour moi, c'est la moindre des choses que je peux faire pour les générations qui viennent.
Cette photo, elle a été publiée sur Le Guardian, elle est un petit peu choquante parce que vous êtes une femme d'un certain âge.
Voilà, oui c'est vrai, j'ai 71 ans. Voilà.
Donc ça c'est le centre où vous vous réunissez tous les mercredis.
Et je fais une introduction à Extinction Rebellion qui dure 75 minutes, tout sur l'origine et nos 10 principes. À la fin, je peux dire à ces gens, si vous êtes d'accord avec nos demandes et nos principes, ça y est, vous êtes membre d'Extinction Rebellion et vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors maintenant, on est au cœur.
Oui, on a changé de décor, là, c'est McDonald's.
Exactement, c'est toutes les chaînes, pas de graffiti, très propre, très joli.
Alors pourquoi vous nous avez amené dans ce centre commercial ?
Parce que Extinction Rebellion a fait une grande action le 1er juin contre le fast fashion. On a fait un défilé de mode et à 71 ans, j'ai participé, hein ? Et emporter des vêtements qu'on a créés avec des vêtements anciens.
C'est upcycling.
Voilà, c'est le mot, c'est upcycling. Après, dans certains magasins, des étudiantes sont entrées et elles étaient seins nus. Voilà, elles portaient rien. Et elles avaient noté sur leur corps « Fast fashion kills ». La mode vite tue. Alors il y avait deux ou trois gendarmes, mais pas beaucoup. Je ne sais pas s'ils regardaient le match. Et tout était très paisible.
Mais quand même, j'ai l'impression que globalement, c'est un mouvement qui ne suscite pas trop de violence avec les policiers par rapport, si on compare aux gilets jaunes, par exemple, en France.
Non, non. En Angleterre, c'est les policiers qui portent les gilets jaunes, comme tu as vu dans ma photo.
Merci beaucoup, Felicity, pour cette balade dans les quartiers de Bristol et dans l'histoire d'Extinction Rebellion.
C'était un grand plaisir. Au revoir.
Policiers, doucement, on fait ça pour vos enfants.
Je m'appelle Gabrielle, là on est au parc Monceau, on doit être à peu près 25, pour organiser notre action d'affichage de ce soir, en vue de pouvoir faire passer nos messages demain lors du bal des pompiers qui aura lieu un petit peu partout dans Paris. Et donc là on est un peu sur le départ, on a trié les affiches, on s'est organisé en groupe, on a redéfini les rôles. Donc là il y a des affiches, il y en a qui parle de l'écocide, donc on va avoir des animaux. Les bombes de peinture, c'est pour les pochoirs, on a fait des pochoirs et on va pocher un petit peu partout. Après on a des principes, on poche pas sur les murs, sur les bâtiments historiques encore moins. Le but c'est vraiment pas de faire de la pollution visuelle.
Ça fait longtemps que vous êtes dans le mouvement? Est-ce que vous étiez là sur le pont de Sully par exemple?
Ça va faire 3 mois que je suis dans le mouvement. Donc on s'est réunis pour bloquer le pont de Sully et finalement le dispositif policier a été assez important.
L'évacuation, comment ça s'est passé ?
Moi, je peux parler que de mon point de vue, c'était assez violent, d'autant que j'étais pas bloqueuse et que du coup je voyais uniquement les personnes avec lesquelles j'étais venue bloquer se faire gazer sans pouvoir rien faire, donc c'était très frustrant et assez choquant. Bah, c'est une répression qui est très forte, si on compare à la répression qui est faite en Angleterre, qui est quasi inexistante, où les policiers ont un tout autre comportement.
Alors, je vous rappelle qu'il y a 2 règles qui sont importantes. La première, c'est qu'on risque une amende potentiellement de 68 € pour affichage sauvage. Donc ça, c'est pas anodin. La deuxième, c'est que les taggeurs risquent encore plus. Et si un tagger se fait arrêter et qu'on y va tous, c'est du tag en réunion et c'est pire. Spontanément, on a tous envie en général, quand il y a quelqu'un qui va se faire embrouiller par la police, d'y aller. Or, le consensus d'action, c'est qu'on déroule l'action jusqu'au bout. S'il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter par la police, on s'écarte et on se retrouve dans un bar pas loin. Le premier qui arrive à un bar donne l'adresse où il est et les autres le rejoignent. On attend une 15 à 20 minutes et après on ira sur un autre spot pour continuer notre action. D'accord ? Du coup, on va voir pour avoir une base arrière et envoyer nos numéros de téléphone à appeler en cas de problème.
Là, il est 23h, on est dans les beaux quartiers parisiens, à l'ouest du 17e arrondissement, et on suit une équipe d'Extinction Rebellion dans une campagne d'affichage et de tracts nocturnes clandestines.
Oui, alors le petit son d'aérosol, c'était juste un petit tag avec le logo XR qu'on a fait sur les bandes blanches des passages piétons. En fait, on essaye juste de le mettre dans les endroits où ça ne dérange pas, mais les gens risquent de les apercevoir quand même. On essaie d'éviter justement le rouge ou le noir qui sont des couleurs un peu trop fortes, trop agressives. Dans un autre quartier, les policiers étaient très gentils au début. Ils leur disaient « Bon, vous pouvez continuer, mais juste faites ça dans un autre arrondissement. » Par contre, il y en a eu au moins l'un qui a reçu plus tard chez lui une amende. Donc voilà, il y a quand même des conséquences.
Et dans ces cas-là, comment ça se passe l'amende? Qui c'est qui la paye?
Alors on essaie justement de... Génial, c'était un œuf.
Là, il y a un œuf qui vient de tomber.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Quelqu'un a
par
jeté
terre.
Un œuf.
Ça veut dire qu'on va bouger, ça.
Ouais, du coup, juste pour finir, normalement, quand un rebelle reçoit une amende, on fait un appel à Extinction Rebellion Royaume-Uni, qui gère les fonds internationaux, et c'est eux qui envoient justement de l'argent pour qu'on paye l'amende.
We believe the earth is... worth saving. We believe the time is now. We believe every creature is precious. Extinction rebellion. Extinction rebellion. Of the we stand shoulder to shoulder. We walk. We stand with our heads held high of you. We walk. We stand, our hearts overflowing. Extinction rebellion. Extinction rebellion. This is an emergency. Yeah. So
je m'appelle Chitranjan Dubey, je suis coordinateur de l'action d'Extinction Rebellion en Asie du Sud. Je me suis engagé au sein d'Extinction Rebellion lorsque je vivais à Bristol, au Royaume-Uni, l'année dernière.
Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de coordonner l'action d'Extinction Rebellion en Asie du Sud-Est ?
C'était très facile pour moi parce que je viens d'Inde et aussi parce que j'étais engagé comme activiste social et politique là-bas. La première chose que j'ai faite, c'est de créer un compte Facebook Extinction Rebellion. Du coup, beaucoup d'Indiens ont commencé à m'écrire. Et puis, petit à petit, le mouvement a pris en Inde. Puis, grâce à l'équipe d'Extinction Rebellion de Londres, je suis entré en contact avec différents pays comme le Sri Lanka, le Bangladesh, le Népal.
Et quel type d'action vous organisez là-bas ?
Au sein d'Extinction Rebellion, nous sommes des disciples de Gandhi. Nous croyons en l'action non violente directe. Ce sont donc des manifestations ou des marches très pacifiques. Par exemple, avec l'aide d'étudiants ou de citoyens adultes, nous nous rassemblons devant le ministère de l'Environnement. Nous restons debout, avec des pancartes, dans l'espace public, pour essayer d'éveiller les consciences. Nous utilisons aussi les artistes, les musiciens, les chanteurs, les poètes. Nous chantons, nous dansons, pour impliquer les gens de façon créative.
Comment est-ce que les gouvernements réagissent à votre présence, par exemple dans les pays qui ne sont pas forcément démocratiques ?
En Inde, pour l'instant, nous avons reçu un accueil très positif. Dans d'autres pays, lorsque nous échangeons avec les gens, ils peuvent avoir des appréhensions car le système est très répressif à leur égard. Ils ne peuvent pas faire la même chose que ce à quoi nous assistons au Royaume-Uni ou d'autres pays européens, comme bloquer des routes, pénétrer dans le Parlement. Ce genre d'action est impossible dans beaucoup de pays d'Asie du Sud.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors ?
Nous pouvons faire beaucoup de choses, simplement en nous rassemblant dans l'espace public sans créer un seul problème. Nous pouvons donner des discours, écrire des lettres à différents ministères, lancer des pétitions en ligne. Je suis sûr que cela peut avoir un impact. La preuve, c'est que beaucoup de jeunes rejoignent le mouvement parce qu'ils se sentent très concernés par l'avenir.
Et pensez-vous que ce mouvement il pourrait avoir le même succès qu'en Europe, en Inde ? Quelles sont les différences par rapport à une ville comme Bristol ?
Pour être honnête, il n'y a pas de réponse évidente. Je pense que les pays d'Asie du Sud vont être les premiers à souffrir du dérèglement climatique. Nous avons tous conscience des inondations massives, des pluies qui deviennent imprévisibles, de la déforestation de masse qui est en cours, des très faibles systèmes de gestion des déchets. Aujourd'hui, la jeunesse indienne est consciente de cette crise écologique. Elle veut vraiment que le gouvernement fasse quelque chose. Mais en même temps, l'Inde est un pays en développement et nous sommes dans une phase de croissance massive. Or, il ne peut pas y avoir une croissance très importante sans une société où les gens consomment trop. Il faut que les citoyens de ces pays, je veux dire les pays d'Asie du Sud, mais aussi de n'importe quel pays en développement, réalisent qu'en suivant le même chemin que l'Occident, ils vont finir dans la même impasse.
I'm sorry, my friends. I didn't want to stop you when you were having such a fine time. But this is an emergency. Your house is all on fire. And if we do not rise up now, turn to ashes.
Extinction Rebellion s'est répandu dans beaucoup de pays assez rapidement. Est-ce que c'était une intention que vous aviez dès le départ?
That is an absolute necessity.
C'est une nécessité absolue, parce que la crise climatique est globale par définition. Et nous n'arriverons jamais à opérer les changements structurels absolument nécessaires à nos sociétés sans des manifestations de masse coordonnées partout dans le monde. En termes de stratégie, je pense que nous assistons à une évolution des mouvements. Ce qu'il nous faut, c'est réunir beaucoup de réseaux progressistes et citoyens. Ils peuvent avoir des philosophies, des cultures, des orientations politiques différentes, mais ils doivent s'unir en réalisant que si l'on n'agit pas ensemble, nous allons assister à l'effondrement de nos sociétés dans les 20 prochaines années.
Donc après le Royaume-Uni, la France a suivi l'exemple, vient de déclarer l'urgence climatique. Comment vous voyez ça? Comme du vernis ou comme une vraie victoire?
Les manœuvres des politiciens traditionnels n'ont plus aucune crédibilité, parce que cela fait 30 ans qu'ils gesticulent. Le moteur du changement sera le peuple dans la rue, se livrant à la désobéissance civile en masse. C'est ça la force qui amènera un changement véritable, mais aussi un changement équitable. C'est-à-dire que les riches doivent payer leur part et ne pas faire peser le coût de la transition sur les pauvres. Donc non, le fait que la France déclare l'urgence climatique ne présente pas d'intérêt particulier. C'est juste un signe de plus que les élites politiques essaient désespérément d'éviter de faire quelque chose de concret.
Vous avez déclaré « nous avons déjà gagné ». Mais quand on voit Trump, quand on voit ce que Bolsonaro fait en ce moment à la forêt amazonienne, est-ce que vous avez vraiment l'impression de gagner le combat ?
Je pense qu'il est inévitable que les peuples des principaux pays industrialisés se révoltent dans les prochaines années. En ce sens, nous avons déjà gagné. La vraie question, c'est n'avons-nous pas gagné trop tard ? C'est une question ouverte. Mais à la question de savoir si les régimes occidentaux vont s'effondrer dans les temps qui viennent, la réponse est que c'est inévitable, parce que proposer au peuple de mourir pour les bénéfices des élites ne va pas le mener à rester passif.
On entend de plus en plus parler en ce moment d'effondrement. Vous-même, le nom de votre mouvement en parle. Comment est-ce que cet effondrement, il peut mobiliser les foules plutôt que de les terrifier ?
Lorsqu'on se penche sur l'histoire des effondrements, on voit que des gens y réagissent de façon très diverse. Certains sont terrorisés et deviennent passifs. D'autres s'enferment dans l'hédonisme et vivent au jour le jour. Et puis certaines personnes trouvent qu'on pourrait appeler à une forme de courage républicain. Ils orientent les ressources publiques vers un projet qui permette de survivre. Ce sont eux que nous visons. Il est inévitable que les gens soient terrorisés. On ne peut rien y faire. Mais notre but avec Extinction Rebellion est de mobiliser les 3,5% de la population qui ont ce devoir civique envers leurs enfants, envers leur société, leur nation, qui disent « Assez de cette irresponsabilité ridicule des élites. Nous allons maintenant prendre le contrôle. »
Alors, quelles sont les prochaines étapes pour vous?
Nous avons le projet de faire fermer l'aéroport Heathrow de Londres pacifiquement grâce à l'emploi de drones. Cela serait un blocage économique majeur. Et puis en octobre, il va y avoir une rébellion contre ces gouvernements qui nous mènent à la mort. Elle aura lieu à Paris, Berlin, New York, Londres. Plus généralement, nous cheminons vers une période où des milliers de gens vont créer des blocages économiques. Parce que le blocage de l'économie est le mécanisme principal pour forcer les riches et les gouvernements à changer.
C'était un reportage de Côme Bastin réalisé par François Porcheron. Pour mieux comprendre la portée de ce mouvement et comment il s'inscrit dans l'histoire, nous sommes en ligne avec Graham Hayes depuis Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des mouvements écologistes et maître de conférences à l'université de Aston, à Birmingham donc. Comment réagissez-vous à ce reportage ?
Bon, je pense que tout d'abord, il faut dire que c'est un portrait très exact de ce mouvement qui est toujours, on peut dire, naissant en Grande-Bretagne, même s'il a existé plus d'un an. Et je pense que aussi, le reportage réussit à vraiment à capturer cet esprit de rébellion. Vous avez parlé d'une, comment vous avez dit, une femme d'un certain âge, d'une dame de 71 ans, qui a voulu se faire arrêter pour défendre ses idées et pour faire changer la politique. Et je pense que cela est important. Enfin, le mouvement a réussi à vraiment à changer les discours et à changer le paysage politique en Grande-Bretagne. Et là, c'est parce qu'il y a des gens peut-être comme nos auditeurs, qui ont voulu, qui sont prêts à se faire arrêter pour défendre leurs idées. Et je pense que ça, c'est capital.
Oui, bien alors ça touche tous les âges, toutes les classes sociales, hein, pas seulement c'est les vrai. Jeunes.
Oui, tous les âges. Enfin, nous avons même mené une enquête en avril à Londres. Et en fait, la distribution des âges est très égale. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes qui ont la cinquantaine, qui ont la trentaine dans ce mouvement. Mais aussi, nous avons remarqué qu'il y avait à peu près deux fois plus de femmes que d'hommes dans des manifestations, surtout la première journée des manifestations à Londres, à Pâques cette année.
Alors, vous étiez aux toutes premières réunions du mouvement, puisqu'il est né en Angleterre. Comment ça s'est passé au tout début ?
Au tout début, enfin, si on revient en septembre dernier, donc en septembre 2018, j'ai assisté à un mouvement de lancement de ce mouvement. Il y avait très peu de monde, hein. On était une trentaine dans une salle à Londres pour discuter de la stratégie de ce mouvement. Et je me suis dit tout simplement que c'est très bien tout ça, mais ça va mener nulle part.
Vous n'y avez pas cru au départ, en fait?
Oui, justement, enfin, j'étais très sceptique. Je ne pensais pas qu'il y avait assez de monde là pour faire quelque chose. En fait, j'ai eu tout tort. Enfin, je n'ai rien compris, évidemment, puisque un mois, six semaines plus tard, c'est l'explosion de ce mouvement et véritablement des actions de masse à Londres qui ont mobilisé 5 000, 6 000 personnes. Alors, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Je ne dirais pas pour l'instant du jamais vu, mais certainement pour ce qui est du mouvement contre le changement climatique, là, c'était vraiment une nouveauté.
Alors, qu'est-ce qui fait que Extinction Rebellion réussisse à fédérer autant de monde en si peu de temps avec votre regard de sociologue ?
Je pense qu'il y a une certaine confluence des circonstances. Tout d'abord, comme votre reportage a souligné, le mouvement est arrivé au bon moment, c'est-à-dire au même moment que Greta Thunberg, et donc les grèves le vendredi, et également le rapport de l'IPCC qui nous donne 12 ans pour changer la donne.
Oui, le rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat.
Mais en même temps, le mouvement a su très finement, je dirais, mobiliser des gens qui n'avaient pas vraiment été mobilisés avant, surtout pour mener des actions de désobéissance civile. Ils ont voulu créer un mouvement de masse, là où avant, des gens qui participaient à ce genre d'action, c'était vraiment des réseaux assez restreints.
Alors, enfin, quand même, il y a des ONG très importantes à l'échelle du monde. Je pense à Greenpeace, tout d'abord, qui a cette tradition, justement, de faire des mouvements de désobéissance civile, d'aller faire des blocages, etc. Donc, finalement, comment est-ce que ce mouvement s'inscrit au milieu des autres ? Pourquoi est-ce qu'il fédère plus ? Parce qu'il est nouveau ? Parce qu'il mélange optimisme et urgence? Donc, comment est-ce que vous voyez l'émergence de ce mouvement au milieu des autres?
Le mouvement s'est voulu se différencier des mouvements comme Greenpeace. Pourquoi? Parce que Greenpeace, ce n'est pas un mouvement de masse, c'est un mouvement où on peut être membre, mais on n'a pas le droit de participer à des grandes actions. Donc d'un côté, vous avez des mouvements comme Greenpeace qui mènent des actions de blocage, par exemple, mais où c'est tout simplement des spécialistes qui participent à ce genre d'action.
Oui, c'est pas
ici,
tout le monde.
C'est vraiment un mouvement de désobéissance de masse où des citoyens peuvent participer à une action collective
Alors, prenez la désobéissance civile pacifique, ce n'est pas une approche nouvelle, hein. C'est ce que faisaient déjà les mouvements écologistes dans les années 70, finalement. Alors, en quoi l'approche d'Extinction Rebellion est différente ?
Vous avez raison, enfin, on peut revenir il y a 40, 50 ans en arrière pour dire qu'après 1968, le mouvement écologiste a développé des techniques de désobéissance civile pour se démarquer de la lutte des classes, pour se démarquer de la violence politique après 1968 et pour renouer avec des traditions de pacifisme et avec des mouvements de conscience qui ont souvent été les mouvements antécédents du mouvement écologiste. Et en même temps, on a vu depuis à peu près 20 ans la renaissance de la désobéissance civile dans le mouvement contre la mondialisation et aussi pour manifester contre les énergies fossiles. Enfin, il y a une question, une situation d'urgence. Alors, vous avez raison de poser la question, en quoi Extinction Rebellion apporte-t-il quelque chose de novateur ? Et je pense qu'en fait, Extinction Rebellion joue sur ces traditions, c'est-à-dire qu'il se place dans une grille de lecture et d'action qui est très familier au mouvement écologiste, mais c'est vraiment cette idée de faire participer un nombre maximal de concitoyens à ce mouvement qui a vraiment apporté la nouveauté. Mmh. Et je pense aussi cette idée de créer des pauses, c'est-à-dire de lancer la rébellion, de faire une série d'actions, puis de faire pause et puis de repartir 2-3 mois après, voire 6 mois après. Donc cette idée de planifier l'action dans le temps permet à ce mouvement peut-être de durer dans le temps.
Oui, d'ailleurs, on sait qu'il va y avoir une série d'actions assez importantes au mois d'octobre et à l'échelle internationale. On suivra cela à ce moment-là. Et alors, pour l'instant, les actions de Extinction Rebellion ont abouti au fait que le Parlement britannique, je le disais tout à l'heure, déclare l'état d'urgence écologique. Une mesure que plusieurs villes et même le Sénat français ont adoptée à leur tour ces dernières semaines. Mais c'est plutôt symbolique, hein, parce que juste après cette adoption, hein, on se souvient que le Parlement britannique avait par exemple voté l'extension de l'aéroport de Londres. Donc voilà, cet état d'urgence écologique, ça n'engage pas à grand-chose. Donc pour l'instant, ce ne sont pas des victoires massives.
Oui, vous avez raison. En fait, il y a 3 revendications centrales, dont une, c'est les déclarations d'urgence. Et vous avez raison également de dire qu'il y a plus de 100 villes en Grande-Bretagne qui ont déjà déclaré l'urgence climatique. Tout reste à jouer. C'est dire qu'il faut durer dans le temps pour agir en contre-public, pour faire contrepoids, parce que des villes comme la mienne, Birmingham, ou des grandes villes comme Manchester, qui ont déclaré l'état d'urgence, ont également des histoires de ne pas faire grand-chose, même s'ils avaient déclaré par le passé des mesures, des actions, des commissions, etc., etc., pour faire face au changement climatique. Donc, vous avez raison de dire qu'un des problèmes, c'est plutôt ceux qui se posent en alliés du mouvement plutôt que ceux qui s'opposent au mouvement. Il est très facile de se poser en allié et de dire « oui, on vous a entendu, nous allons déclarer l'urgence », et puis ne rien faire après.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut obtenir des victoires. Alors l'objectif affiché par les porteurs du mouvement, mais pas seulement, hein, c'est un objectif partagé par beaucoup de mouvements écologistes aujourd'hui, ce serait de réussir à convaincre 3,5% de la population à les rejoindre, parce que pour eux, ce chiffre symbolise un basculement. Est-ce que c'est crédible pour vous ?
Ben, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que Roger Hallam, il dit, en tant que scientifique, nous avons des études qui montrent que ce seuil est capital. Mais le problème, c'est que, ben, 2 choses. Tout d'abord, que ces études scientifiques ont été des études menées dans des régimes autoritaires, pas dans des conditions de démocratie libérale. Alors, 3,5%, pour faire basculer un régime autoritaire, peut-être bien, mais on n'est pas dans cette situation-là en Grande-Bretagne, ni en Europe occidentale, ni en Amérique du Nord, etc., etc. Alors, est-ce qu'on peut tout simplement transposer un chiffre d'une situation et le faire insérer dans une autre situation ? Je ne pense pas. Il faut faire attention au contexte. Et ensuite, ce 3,5%, c'est pas très clair. Est-ce que c'est ceux qui ont manifesté une fois que le régime a basculé ou avant pour faire basculer le régime? Ce n'est pas clair dans les études de Chenoweth et de Stephen qui ont influencé Roger Hallam. Et également dans ces études, la catégorie émeute a été inclue dans la catégorie non violente. Alors là encore, ce n'est pas très clair. Qu'est-ce que la barrière entre la violence et la non-violence? Et le danger, peut-être, c'est que si les militants croient que tout ce qu'ils doivent faire, c'est faire mobiliser 3,5% de la population, et là encore, ça ne marche pas, il y a le risque de découragement, de démobilisation, et donc de faire baisser les bras.
Alors, leurs actions ciblent les multinationales, les institutions financières et les gouvernements pour faire tomber le système, hein, c'est ça l'objectif. Mais est-ce qu'ils ont une stratégie sur ce qui va se passer après, s'ils y arrivent ?
Pour l'instant, ce n'est pas très clair. C'est pourquoi, en fait, un collègue à Manchester, Mark Hudson, a dit « Tout ça, c'est le problème du 4 janvier 2023 ». Pourquoi le 4 janvier 2023 ? Puisque c'est à ce moment, à cette date approximative, que les conseils municipaux vont présenter les mesures qu'ils cherchent à faire implémenter. Bon, qui sera présent ce jour-là ? On sera dans quelle situation ? Qui sera là pour dire « Excusez-moi, vous avez dit il y a 4 ans que vous allez déclarer l'état d'urgence, vous avez développé des mesures, mais en fait, ces mesures ne sont pas à l'auteur. » Alors, faire durer le mouvement, tout d'abord, est un problème. Et deuxièmement, il est très facile de parler de faire basculer un régime si on est dans un régime autoritaire, parce qu'il y a un autre modèle. Il y a le modèle de démocratie libérale, il y a le modèle de république qui peuvent être articulés, utilisés pour penser une autre future, pour développer un autre imaginaire collectif. Dans le mouvement Extinction Rebellion, il n'y a pas vraiment ce travail de développer un imaginaire collectif qui peut remplacer cette idée de notre politique, de notre parlement, de notre régime démocratique. Alors, pour l'instant, oui, changer le monde, c'est clair, mais changer le monde à quoi ? C'est beaucoup moins clair.
En même temps, ceux qui ont fait la Révolution française ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir derrière comme régime. Et ils ont eux aussi inventé des nouveaux régimes, finalement. Est-ce que ce n'est pas le principe même d'une révolution ?
Je pense qu'on aimerait bien quand même éviter les dégâts qui ont suivi la Révolution française.
Vous voulez dire pas trop couper ouais, tête, quoi.
C'est justement tout le problème d'Extinction Rebellion, c'est qu'il n'y a pas d'extinction. Alors, c'est vrai, il faut rester optimiste, il faut développer des thèses, il faut développer des analyses, et on ne peut pas avoir toutes les réponses au début. Mais c'est vrai qu'il y a des réponses à développer.
Très bien, mais écoutez, on va suivre ce mouvement, en tout cas comme les autres mouvements écologistes, mais celui-ci nous intéressait particulièrement parce qu'il a poussé comme un champignon. Merci Graham Hayes, je signale pour ceux qui voudraient aller plus loin que vous êtes co-auteur avec Sylvie Olitreau et Isabelle Sommier d'un livre « Enfreindre les lois, violence et désobéissance civile en signe de protestation » publié aux presses de l'Université d'Amsterdam. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Si vous voulez voir l'action de Extinction Rebellion en images, rendez-vous sur les réseaux sociaux, hashtag C'est pas du vent ou sur notre page internet. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.